Première partie, en cas d'apocalypse. En novembre 2015, je me suis retrouvé à Paris pour assister à la conférence des Nations Unies consacrée à l'urgence climatique. Je dis « je me suis retrouvé », non parce que je n'avais pas décidé de m'y rendre, au contraire, la question environnementale occupait mon esprit et mes lectures depuis longtemps. Mais s'il n'y avait pas eu de conférence sur le climat, j'aurais inventé une autre excuse pour partir. Un conflit armé, une crise humanitaire, une préoccupation différente des miennes et plus importante, susceptible d'accaparer mes pensées. L'obsession de certains d'entre nous pour les désastres imminents, se penchant pour les tragédies que nous croyons nobles et qui constituera, je pense, le cœur de cette histoire, réside peut-être là. Dans le besoin, chaque fois que nous traversons un passage excessivement compliqué de notre vie, de dénicher quelque chose de plus compliqué encore, de plus urgent et de plus menaçant, ou diluer notre souffrance personnelle. Et il se peut que la noblesse n'ait vraiment rien à voir avec ça. C'était une période étrange. Ma femme et moi avions tenté à plusieurs reprises d'avoir un enfant en nous soumettant avec insistance pendant environ 3 ans à des pratiques médicales de plus en plus humiliantes. Pour être plus précis, c'était surtout elle qui s'était soumise à ces pratiques. Car à partir d'un moment donné, il s'était essentiellement agi, pour moi, de jouer le rôle du spectateur affligé. Malgré notre détermination aveugle et un gros investissement financier, ce plan n'avait pas marché. Ni les injections de gonadotrophine, ni la fécondation in vitro, et encore moins les 3 désespérants voyages à l'étranger dont nous n'avions touché mot à personne. Le message divin que contenaient ces échecs répétés était clair. Tout cela ne fait pas partie de votre destin. Comme je refusais de l'admettre, Lorenza avait pris la décision pour moi. Une nuit, les yeux séchés ou totalement dépourvus de larmes, je ne le saurais jamais, elle m'avait annoncé qu'elle n'avait plus l'intention de. Elle avait employé cette expression suspendue. « Je n'ai plus l'intention de ». Je m'étais tourné sur le côté, lui montrant mon dos, et j'avais accueilli la rage que suscitait en moi un choix qui me semblait injuste et unilatéral. Durant cette période, ma petite catastrophe personnelle me tenait beaucoup plus à cœur que celle de la planète, que l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, que le recul des glaciers et l'élévation du niveau des océans. Afin de déguerpir avant tout, j'ai prié le Corriere della Sera de m'accréditer à la conférence sur le climat de Paris, même s'il était déjà trop tard pour présenter ce type de demande. De fait, il m'a fallu supplier, comme s'il s'agissait d'un rendez-vous auquel il m'était impossible de renoncer. On ne me paierait que le vol et les papiers que j'écrirais. Pour le logement, je camperais chez un ami. Giulio louait un 2 pièces sombre dans le 14e arrondissement, rue de la Gaîté. « La Gaîté », lui avais-je lancé en entrant. « Ce n'est pas ce qui te caractérise le mieux. » En effet, à ta place, je ne me ferai pas trop d'illusions. Quelques années plus tôt, nous avions partagé un appartement à Turin, Giulio en tant qu'étudiant venu de province, et moi en qualité de privilégié souhaitant expérimenter une existence autonome à 1 demi-heure d'autobus du domicile de ses parents. Contrairement à moi, Giulio avait continué la physique après la maîtrise. Il avait changé d'université à d'innombrables reprises, toujours en Europe, parce qu'il nourrissait une aversion politique insurmontable pour les États-Unis. Entre-temps, il s'était marié, puis séparé, et avait eu un enfant. Enfin, il s'était fixé en France avec une bourse de recherche à l'École Polytechnique, où il s'occupait de modèles chaotiques appliqués à la finance. Nous avons dîné de 2 portions de pâtes sans même mettre la table, comme des étudiants. Et je lui ai exposé la raison de ma présence à Paris, la raison officielle. Giulio a pris un livre sur une étagère. « Tu as lu ça ?» J'ai répondu par la négative en laissant les pages courir sous mon pouce. « Effondrement », ai-je murmuré. « Ça me semble parfait. » « Il y a un point de vue intéressant sur l'extinction. Garde-le. » Le mot « extinction » a tournoyé un moment dans ma tête, telle l'étiquette d'un destin personnel. J'ai débarrassé pendant que Giulio me donnait les dernières nouvelles d'Adriano, qui avait déjà fêté son 4e anniversaire. Les hydrates de carbone produisaient sur moi une légère somnolence. Mais nous n'avions plus de vin et nous sommes donc sortis pour continuer à boire. Dehors, Paris était militarisé, sinistre. Quelques jours plus tôt, un groupe de terroristes avait pénétré dans une salle de spectacle durant le concert d'Eagles of Death Metal et tiré plusieurs minutes sur la foule compacte. Un autre commando avait attaqué des bistrots et deux terroristes s'étaient fait exploser à l'extérieur du Stade de France. Ce soir-là, Lorenza et moi recevions un couple d'amis à dîner. C'était sa mère qui nous avait avertis. Lorenza n'avait pas répondu au premier coup de fil, ni au second. Néanmoins, elle avait fini par capituler devant cette insistance suspecte. Sa mère avait dit « Allumez la télé, rien de plus », tandis que des messages se déversaient sur nos téléphones portables à tous. Nous avions suivi le direct en silence pendant plus d'une heure, puis nos amis étaient partis, rappelés par la nécessité totalement irrationnelle de surveiller leur enfant à la maison. Lorenza et moi avions laissé un long moment la télé allumée, le bandeau rouge d'information défilant en bas de l'écran sans interruption, mais il s'agissait désormais de nouvelles cycliques. Les assiettes gisaient sur la table, froides, alors qu'à notre effroi s'ajoutait autre chose, une terreur personnelle. Ce sentiment de deuil sans perte qui pesait sur l'appartement depuis des jours, précisément depuis la nuit où Lorenza avait dit « je n'ai plus l'intention de » et où je m'étais tourné de l'autre côté. Giulio et moi avons marché un peu, longeant les salons de massage aux vitres obscurcies, les boutiques de sextoys et les épiceries asiatiques. Puis nous nous sommes assis sur des chaises au hasard, face à la rue, et avons commandé deux bières. Giulio s'est remis à évoquer les livres qu'il avait lus, des manuels sur la surveillance digitale, sur le printemps arabe et les nouveaux populismes. Il lisait énormément. Il avait une vision de la réalité beaucoup plus complexe que la mienne, beaucoup plus engagée, et ce depuis que je le connaissais. À l'université, il avait coordonné pendant deux années d'affilée le collectif de la salle BI en sous-sol, où étaient accrochées des affiches No Nukes et une photo d'Oriana Fallaci, dont le prénom amputé se lisait Orina, urine, alors que je me contentais, moi, d'y descendre durant ma pause déjeuner dans le seul but de passer un moment avec lui, comme si sa proximité suffisait à me rendre un peu plus conscient, un peu plus éthique. Rue de la Gaîté, je l'ai écouté parler en sirotant ma bière. J'ai laissé ses compétences infaillibles, le bruit des voitures et le mouvement brownien des passants, me nettoyer l'esprit. Durant les brèves pauses de la conversation, nous promenions tous deux le regard ailleurs et j'avais l'impression que la même scène se présentait à nous au cours de ces instants. Un fantôme noir surgissant de la foule et levant les bras au ciel avant de balayer le bar de rafales de fusils mitrailleurs. Dans l'état qui était le mien, stérile, privé de tout avenir, quelque chose en moi souhaitait que cela se produise vraiment. C'était une rêverie idiote et coupable, remplie d'auto-apitoiement, mais je m'y suis livré sans la formuler. Je n'avais jamais discuté de la question des enfants avec Giulio. Notre amitié se nourrissait du monde extérieur et excluait le plus possible nos propres personnes, raison pour laquelle, peut-être, elle durait depuis si longtemps. Le lendemain matin, j'ai pris le RER B, puis un autobus pour gagner le Bourget, où avait lieu la COP21. Les contrôles à l'entrée étaient éprouvants, mais une fois à l'intérieur, on était libre de se mouvoir à sa guise. Pavillon, petites et moyennes salles, sessions plénières et parallèles, identifiées par couleur. Une hôtesse m'a indiqué la salle de presse, où m'attendait une place, une connexion par câble et tout le nécessaire. J'ai simulé une familiarité avec ce genre d'installation que je n'avais pas. Après quelques jours de participation à des tables rondes de toutes sortes, choisies un peu au hasard dans le programme, il m'a fallu admettre qu'il n'y avait pas grand-chose à raconter. Dans les réunions, on débattait des phrases et des paragraphes particuliers, voire des termes spécifiques qui apparaîtraient dans le traité. Les interventions étaient maladroites ou excessivement génériques. L'environnement est un sujet ennuyeux, lent, privé d'action et de tragédies qui ne fussent pas potentielles, par compensation, bourré de bonnes intentions. Tel est le problème caché de l'urgence climatique, l'ennui atroce.